Merci. Nous nous réjouissons vraiment d'être avec vous pendant ces deux jours, depuis hier, et de voir, de bénéficier de la communion qui nous unit, comme cela vient d'être dit, et de voir l'œuvre de Dieu se développer dans la vie de chacun et dans l'Église dans son ensemble. Ce matin, j'aimerais méditer à partir d'un texte de Paul dans l'épître qu'il écrit à Tite, au chapitre 2 et au verset 11. Un texte qui est, comme souvent chez Paul, d'une grande richesse et d'une grande densité, et dans lequel il nous redit l'essentiel en quelques mots et nous rappelle à notre mission. Tite, chapitre 2, verset 11, je lis « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation en gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres ou les œuvres bonnes, selon votre préférence, mais c'est le même sens. Amen. » Paul a un petit peu ce génie de nous ramener à l'essentiel en quelques mots. Bon, une phrase un peu longue, un peu dense, je viens de le dire, mais dans laquelle il nous rappelle le projet de Dieu. Ce projet qui est de se faire un peuple qui lui appartienne, c'est un projet de toute éternité, un projet qui a commencé à la création et qui se poursuit encore aujourd'hui. Il nous rappelle aussi que ce peuple naît de la grâce, de l'amour que Dieu a pour ses enfants, pour l'humanité, et que cette grâce marque ce peuple dans sa culture, dans son fonctionnement, dans ses relations et dans sa mission. Et puis, il nous rappelle aussi que ce que nous avons, notre perspective finale, qui est bien sûr le retour du Seigneur, et nous en parlerons dans quelques instants. Et en même temps, et c'est ce sur quoi j'aimerais mettre l'accent à partir de ce texte ce matin, il nous redit la mission qui nous revient, qui nous est confiée, qui est d'être ce peuple qui lui appartienne, zélé pour les œuvres bonnes. Voilà un petit peu les éléments essentiels que j'aimerais souligner, mettre en exergue dans cette matinée de méditation, en reliant ces vérités à ce que nous sommes en tant que famille d'Église, en tant que réseau Nouvelle Connexion. D'abord, rappeler et revenir à ce projet de Dieu, qui est dans le cœur de Dieu. Se faire un peuple afin de se faire un peuple qui lui appartienne. Alors, c'est pris au milieu de la phrase. Le verset que nous avons lu a commencé par « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Elle nous parle, cette section de cette lecture, elle nous parle de l'effet de la grâce de Dieu dans nos vies individuelles. Comment est-ce que cette grâce nous transforme? Comment est-ce qu'elle change nos vies? Voilà. Et je ne vais pas entrer dans le détail, même si il y aurait tellement de choses à dire sur la nature de la grâce de Dieu, son effet dans nos vies, comment est-ce qu'elle doit marquer notre mentalité et notre culture. Ça, on le sait plus ou moins. Je pense qu'on a toujours besoin de l'apprendre, et qu'on a besoin d'être réimmergé dans une expérience de la grâce qui change radicalement et notre relation à Dieu et notre relation les uns avec les autres. Parce que, et je ne vais pas entrer dans ce détail-là, dans ce point-là, qui n'est pas un détail, parce que si ça n'est pas la grâce de Dieu dans sa puissance et dans sa radicalité qui nous anime et qui nous touche, nous tombons automatiquement dans la religion et dans le légalisme. Et ayant dit ça, on pourrait s'arrêter pendant plusieurs heures pour voir combien l'enjeu est grand. Il est grand pour nous, il est grand pour Dieu, il est grand pour le monde devant qui nous nous tenons et à qui nous sommes redevables d'incarner et de témoigner de la grâce de notre évangile, que celui que toutes les idéologies, toutes les religions, tous les ismes ont pu apporter et ont pu faire valoir. Simplement, notre problème, c'est que souvent, cette grâce-là dont nous voulons bénéficier toujours plus, parce que je veux dire, il n'y a rien de plus délicieux que la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Il n'y a rien de plus émerveillant, le mot n'existe pas, mais on va l'inventer pour cette matinée, que la grâce de Dieu. C'est, ça nous, ça, ça nous, ça fait exploser tout notre être de reconnaissance, ça nous place dans la sécurité, dans la vie. Mais nous avons tendance, quelque part, à faire de cette grâce de Dieu notre bénédiction personnelle et individuelle. Et on la réduit à notre expérience personnelle et on tombe dans le mal du siècle, un des maux du siècle qui est l'individualisme. Ici, ce texte nous dit que la grâce de Dieu a été manifestée, elle fait son œuvre dans chacune de nos vies, mais elle a un but, afin de se faire un peuple qui lui appartienne. Donc il y a une dimension collective dans la grâce de Dieu, il y a une dimension de rassemblement, une dimension qui est universelle, sur laquelle j'aimerais m'arrêter pendant quelques instants. Pour bien peut-être expliquer ou me faire comprendre, il faut peut-être revenir à ce projet de Dieu depuis toujours. Quand Dieu crée Adam et Ève, son intention, ce n'est pas une famille seulement, même si tout commence par une famille, mais son intention, c'est une multitude. Ce sont les nations et c'est l'humanité. Et à travers Adam et Ève, il crée une humanité dans laquelle il pourra prendre plaisir. On l'a lu ce matin, Dieu prend plaisir dans sa création, dans laquelle il pourra se révéler, à qui il confie la gestion de la terre et de la création, c'est pas rien. Ce psaume 8 nous dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, tu as tout mis sous ses pieds. Cette parole est évidemment appliquée au Christ, et on verra pourquoi. Mais dans un premier temps, et David qui prophétise ici, il voit aussi la mission de l'humanité à travers Adam. Quand Adam et Ève ont été créés, ils avaient pour mission de représenter Dieu sur la terre et de faire fructifier la création. Et à travers la mission que Dieu leur donne, il avait la gestion de cette terre. Et Dieu se réjouissait de communier avec l'individu. Il venait tous les soirs parler avec Adam et Ève. Il y avait une communion fabuleuse. Mais il avait en vue l'humanité qui allait naître à partir d'Adam et qui allait peupler les nations et qui allait développer tout ce qu'on connaît finalement aujourd'hui. Il leur confie cette mission-là. Quand le péché vient, on a l'impression que tout s'arrête. Et même si le péché est venu rompre cette relation entre l'homme et Dieu, Dieu a toujours l'intention de se faire un peuple. Et c'est pour ça qu'il suscite Abraham. Et à travers Abraham, il suscite le peuple d'Israël. Un peuple en qui il va prendre plaisir. Un peuple qui sera celui auprès duquel il se manifestera, il se révélera. Un peuple appelé à témoigner aux autres nations de la réalité de Dieu et de la bénédiction qu'il y a à vivre sous les commandements de Dieu. Un peuple témoin. Un peuple, lumière des nations. Mais pour le moment, un seul peuple. Quand le Christ vient, alors là, tout s'élargit. Ça n'est plus un seul peuple, mais ce sont les nations. Et ces nations, appelées à former l'Église, à rejoindre le peuple d'Israël, héritiers ensemble des promesses de Dieu, ces nations sont recréées en Christ. Et là, à ce moment-là, le projet de Dieu se poursuit. Ce que je suis en train d'essayer de dépeindre ici, c'est peut-être une autre vision de l'Église. Quand Dieu dit ici, se faire un peuple qui lui appartienne, ça fait exploser notre compréhension de l'Église, dans sa dimension locale, dans sa dimension dénominationnelle, dans sa dimension de réseau. Là, on parle des nations. On parle de ce que Dieu veut faire avec l'humanité, qu'il vient racheter en Christ, qu'il vient rassembler et à qui il redonne le mandat qu'il avait donné à Adam. Quand on dit que c'est la grâce de Dieu qui est à l'origine de ça, ça veut dire quoi? La grâce de Dieu, c'est pas simplement bénéficier individuellement de l'amour inconditionnel de Dieu, mais c'est être déclaré juste devant Dieu. Année Luther 2017, on va célébrer ça, et on a commencé déjà. C'est la découverte que, par son choix souverain, le Seigneur décide de nous pardonner et de nous restaurer dans notre relation avec lui et dans notre position de fils et de fille de roi, et il nous redonne ce mandat donné à Adam. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je fais un peu d'anticipation pour être le plus compréhensible possible, aujourd'hui, jouir de la grâce de Dieu, c'est reprendre, retrouver sa position ensemble, sa position de peuple de Dieu, et reprendre la mission qui nous est confiée, c'est-à-dire de gérer le monde dans lequel Dieu nous a placés. Ici, quand la grâce de Dieu agit dans une vie, elle restaure en profondeur, au-delà de ce qu'on peut imaginer, mais elle nous replace dans l'humanité que Dieu avait prévue au départ. Non plus en Adam, puisque celle-ci a chuté, mais en Christ. Et quand Christ est venu, il est venu comme le sauveur du monde, il est venu comme le second Adam, comme celui qui est venu recommencer une nouvelle histoire, une nouvelle humanité. Et en lui, tous ceux qui sont nés en lui, qui deviennent des nouvelles créatures, alors retrouvent leur position. Ça, c'est l'Église aujourd'hui, qui dépasse le cadre des dénominations, le cadre des réseaux, le cadre des pays. C'est le peuple de Dieu, de toute nation, de toute langue, de toute tribu, de toute culture, qu'on ne voit pas, mais qui est là et qui est en mouvement dans l'histoire et qui reçoit une mission purifiée par Dieu et zélée pour les œuvres bonnes. On a des problèmes, nous, protestants, avec les œuvres, parce que ça nous fait un peu craindre le mérite, ça nous fait un peu craindre ce contre quoi Luther s'est évidemment élevé. Mais l'Écriture, quand elle parle d'œuvres, elle parle de choses magnifiques. Et nous qui sommes charismatiques, on devrait être beaucoup plus sensibles aux œuvres, parce que, par exemple, dans le chapitre 12 de Corinthiens, quand Paul dit, et quand il parle des dons spirituels, quand il va en montrer la diversité et la richesse, il dit, il y a diversité de charismes, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Et il termine en disant dans ce verset, il y a diversité d'œuvres ou d'opérations, c'est le même mot, mais le même esprit qui opère Dieu en tous, qui opère tout en tous, pardon. C'est-à-dire que les œuvres, pour nous, c'est tout ce que nous sommes chacun appelés à manifester, à vivre, à travers le ministère que Dieu nous donne à chacun, grâce à l'équipement de son esprit. C'est tout ce que nous serons appelés à faire ou à dire qui va incarner la grâce de Dieu dans le monde qui nous entoure. Ça peut être des paroles, ça peut être des actions, ça peut être des organismes, ça peut être des associations, ça peut être des entreprises, ça peut être une présence au monde qui va glorifier Dieu. Qu'est-ce que dit Jésus ? Que le monde voit à travers les œuvres bonnes, qu'il voit votre Père et qu'il le glorifie. Ce matin, ce que je voudrais, c'est juste souligner le fait que nos vies, chacun, reprennent leur sens dans ce peuple auquel nous appartenons, quand nous découvrons notre mission. Notre mission, c'est à travers les œuvres, à travers notre potentiel intellectuel, notre potentiel spirituel, notre potentiel artistique, et la liste n'est pas exhaustive, tout ce qui est en nous, tout ce que Dieu nous a donné et qui va permettre d'incarner la gloire de Dieu. Le ministère auquel Dieu nous appelle chacun, il peut se situer dans l'Église, il peut se situer dans le monde, il n'y a pas de différence de valeur, il n'y a pas de hiérarchie, il y a un appel commun qui repose sur le peuple de Dieu. C'est ce à quoi nous tenons dans notre cadre de RNC, du réseau Nouvelle Connexion, c'est de découvrir, faire permettre à chacun de découvrir son identité, pas simplement en tant que personne en Christ, mais en tant qu'ouvrier, en tant que ministère, trouver sa destinée et pouvoir ainsi, y compris à travers sa vie professionnelle, servir le Christ, contribuer au bien de la ville et incarner le royaume de Dieu. Ça donne une dimension nouvelle à notre vie. Ça brise la séparation entre la vie spirituelle, stricte, relation avec Dieu, et la vie professionnelle, sociale, et tous nos différents engagements. Ça veut dire que tout ce que nous sommes est apprécié de Dieu, est appelé à retrouver son éclat, son service, sa dimension au service de Dieu, pour que nous participions ensemble à ce peuple dont la mission est de gérer le monde dans lequel nous sommes. Et pas simplement ce monde présent, mais le monde à venir. Alors quand je dis gérer ce monde présent, alors j'entends parfois les réactions qui peuvent s'élever en disant oui, voilà encore les chrétiens, les évangéliques qui veulent gouverner le monde, qui veulent prendre le pouvoir. Non. Dans le temps présent, incarner le royaume de Dieu pour nous, c'est révéler la nature de Dieu dans sa grâce, dans sa compassion, et c'est ainsi prendre part à la gestion du monde, non pas par une prise de pouvoir, ni politique, ni économique ou autre, mais par un esprit de service et d'amour. Rechercher, dit Dieu à son peuple à travers Jérémie, rechercher le bien, rechercher le shalom de la ville dans laquelle je vous ai déporté. Ça veut dire que dans cet endroit que ce peuple voulait fuir, parce qu'il représentait le summum pour lui de l'idolâtrie, alors Dieu dit non, là, dans ce contexte-là, qu'il vous insupporte, qu'il ne vous convienne pas, qu'il soit dur, qu'il soit aride, qu'il soit desséchant, c'est là. Ça peut être la vie professionnelle, ça peut être l'engagement dans la famille, ça peut être associatif, l'engagement politique ou autre. Là, c'est là que je vous engage à rechercher le shalom, à rechercher la bénédiction, à amener la présence de Dieu, à amener une dimension de son royaume qui va transformer l'environnement dans lequel vous êtes. C'est cela que j'entends par gérer le monde à venir. On le fait dans un contexte de lutte, un contexte de, parfois de persécution, pour un contexte de combat. Mais n'empêche qu'on est dans cette position-là. Aujourd'hui, notre perspective, et ce texte le rappelle, c'est l'attente, la bienheureuse attente, la bienheureuse espérance du retour du Seigneur. Ce que je voudrais souligner ici, c'est que à travers... Merci beaucoup, Elsa. À travers cette pensée générale de ce peuple zélé pour les bonnes œuvres, on comprend que le temps dans lequel nous sommes, qui est un temps d'attente, attente de la bienheureuse espérance du retour en gloire de Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais le redire, ça. Parce que souvent, dans les milieux chrétiens, le retour du Seigneur, c'est, bah oui, c'est quelque chose que l'on espère, mais comme on ne sait pas ce qui va se passer, puis c'est tellement entouré de choses un peu particulières, catastrophistes, que se dit, oh là, alors il y a ceux qui disent, ben, vivement qu'ils reviennent, dans ceux qui disent, ben, voilà, c'est tellement impressionnant que... Moi, j'ai entendu pendant toute mon enfance des prophéties tonitruantes chaque dimanche matin. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Tout le monde tremblait, j'avais les cheveux, les poils qui s'hérissaient de partout, mais ça m'a jamais rien fait me comprendre de la raison pour laquelle Jésus revenait. Et il faut qu'on en finisse avec cela. Nous, notre espérance, c'est bien sûr que Jésus revient, et heureusement, mais il reviendra en son temps. Et il faut un peu arrêter de penser qu'il va revenir demain. Il peut arriver, il peut revenir quand il veut, hein. Mais cette espèce de frénésie de lire dans les événements le calendrier de Dieu parce que il est à la porte, il se lève, il est en train. Attendez, il faut arrêter ce cinéma. Hein. Seigneur est en mouvement, il revient quand il veut. Il faut vivre comme s'il revenait à l'instant, mais il peut revenir dans plusieurs générations devant nous, et que personne ne cherche à me prouver que ça en est la dernière génération ou peut-être même l'avant-dernière. Parce que ça, personne ne le sait, tout simplement. On peut avoir des preuves, on peut avoir des démonstrations, des raisonnements, mais personne ne le sait. Et ce qui m'embête surtout, c'est que derrière cette idée de chercher un petit peu le pourquoi et le comment, pas le pourquoi, mais le comment du retour du Seigneur, eh bien derrière, il y a une espèce de frénésie qui est finalement nourrie par l'idée que plus vite on s'en va de cette terre, mieux ce sera. Or, si nous comprenons que nous sommes ce peuple racheté en Christ, nouvelle humanité, appelé à gérer le monde d'aujourd'hui, alors on n'est pas dans l'attente impatiente, dans le mauvais sens du terme, comme une fuite du retour de Jésus. On est dans l'attente impatiente de son retour parce que, évidemment, quand il reviendra, il établira son royaume. De nouveaux cieux, une nouvelle terre sur laquelle la justice habitera. Alors on attend ça, c'est notre espérance, on est créé pour ça. Mais aujourd'hui, en attendant cette bienheureuse espérance, j'insiste, cette bienheureuse espérance. Et ce matin, il y a de l'ombre, il y a de la crainte, il y a de l'appréhension liée à l'espérance du retour de Jésus, parce que, surtout en ce moment d'élection, il y a tellement d'âneries qui circulent sur Facebook et tout le reste, que, et pas seulement, qu'on ne sait plus trop que penser. Je ne suis pas là pour rassurer à bon marché, hein, pour dire non, bonnes gens, dormez en paix, tout va bien, non. L'heure est grave, on est d'accord. Mais notre compréhension du projet de Dieu doit nous donner la force, doit nous donner l'assise, l'autorité et la paix pour vivre dans ce siècle présent. Vous avez lu avec moi dans ce texte. La grâce de Dieu, elle nous enseigne à renoncer et à vivre. Je passe aux les compléments de ce texte, mais et à vivre où ? Dans ce texte présent. Est-ce qu'on peut le dire ensemble ? À vivre dans ce texte présent, dans ce temps présent, pardon, dans ce siècle présent. Je suis un peu entre deux eaux, là, pour différentes raisons, sur le plan physique. Hein. Donc, pardonnez. À vivre dans ce siècle présent. Et quand on comprend que ce peuple de Dieu auquel nous appartenons est appelé à rentrer dans sa mission aujourd'hui, alors on peut vivre dans le siècle présent de manière réconciliée. Non pas dans l'hostilité, non pas dans le jugement, non pas dans le dédain ou le mépris ou la fuite ou le retrait, mais en étant pleinement intégré à notre génération, en étant pleinement au service de notre génération, à travers tout ce que Dieu nous donne de faire pour pouvoir le servir. Bienheureuse, en attendant cette bienheureuse espérance, Dieu se fait un peuple qui soit purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. C'est ça la vision du royaume de Dieu. Zélé pour les œuvres bonnes, c'est simplement comprendre ce que Dieu t'a donné comme mission, comme potentiel, comme qualité, comme compétence, comme talent. Et savoir que tout ça, ça lui appartient, y compris sur le plan intellectuel, sur le plan artistique. Il est à l'origine de tout. Il faut peut-être décloisonner. Parfois, on a une vision du service de Dieu qui ne peut se faire qu'avec un certain type de don spirituel. Et puis voilà. Alors, quand on voit la liste des talents que Dieu, dont Dieu est l'origine, hein, il est l'origine de tous les talents, y compris artistiques, y compris intellectuels, y compris artisanaux. Moi, un de mes hommes préférés de la Bible, c'est Betsaleel. Exode 31, j'en parle de lui tout le temps. Pour justement répondre à ceux qui pensent qu'on ne peut servir Dieu que dans un certain type d'expression de l'onction. Non, l'onction, c'est la compétence que Dieu met sur tous tes talents, quels qu'ils soient. Ça peut être le service, ça peut être l'enseignement, ça peut être l'exhortation, la compassion. Mais aussi, cet homme, il était loin d'Esprit Saint. Ah, ça, on est d'accord. Et j'en parle souvent, j'en ai déjà parlé ici, hein, je sais, donc je me répète. Mais bon, voilà, j'arrive à un âge où je peux me pardonner. Mais non, parce que j'y crois. Et il faut que ça rentre dans nos mentalités. Il faut arrêter que nos vies professionnelles et nos engagements artistiques ou associatifs ou politiques soient vus comme des choses marginales. Non, c'est le lieu où Dieu nous appelle à être son peuple, zélé pour les œuvres bonnes, pour incarner son royaume. Il faut que les lieux où nous vivons, nos environnements, soient transformés par la mission qu'il nous confie à chacun. Dieu nous regarde. Des fois, je le plains un petit peu, faut dire, hein. Pas pour vous, hein. Je disais à ma femme en roulant toujours en voiture, je dis, mais comment Dieu s'y prend pour continuer de nous aimer en voyant tant d'inepties écrites sur les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, ça met en évidence, mais c'est pas, les réseaux sociaux n'y sont pour rien. Hein. C'est l'immaturité, c'est ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Mais comment Dieu peut continuer à nous aimer? Je suis bouleversé. Bon. Parce que moi, j'ai du mal, hein, à continuer d'aimer certains commentaires et certaines personnes qui, enfin la personne peut-être, mais les commentaires qui distillent quelque chose de destructeur, de démobilisateur. Qui continue de construire le regard méprisant, dédaigneux par rapport à la société. Oui, on sait que les puissances de l'argent, on sait que les ténèbres, on sait qu'on connaît le projet de l'ennemi en termes de gouvernement mondial, etc. Mais vous croyez que ça date de maintenant, ça? C'est depuis toujours. Et il y a déjà eu l'expression de l'Antichrist à plusieurs moments de l'histoire avec une force inouïe. On n'est pas devant quelque chose qu'on attend et qui va se produire. C'est quelque chose qui existe, contre lequel nous devons déjà nous mobiliser. Déjà. Et pas attendre, et pas craindre que parce qu'on a voté pour tel ou tel, alors on va accélérer. Mais enfin, le mal, il est là. Il nous environne. Et si nos yeux s'ouvraient, on aurait encore plus peur. Mais l'idée, c'est qu'on n'est pas dans le complot. Toute forme de théorie de complot doit être bannie de nos mentalités, de nos cultures. Mais on aime ça. On aime ça. Je ne sais pas pourquoi on aime ça. Parce que ça nous rend un peu plus... Ah oui, oui. C'est les nouveaux légalismes, ça, vous savez. Du temps des Galates, on disait, si vous voulez être un peu plus spirituel, prenez un peu de la loi. Ça rajoute. Vraiment, là vous êtes vraiment dans les gens initiés. C'est ça le problème du légalisme. Alors on mettait un peu de la loi, un peu de la grâce, et puis on pensait à accéder à une spiritualité. Aujourd'hui, la tentation, c'est d'aller dans des révélations. Alors, abracadabrande, souvent, moi je m'y perds complètement, j'y comprends rien, mais ça paraît à quelques spécialistes, là. Et puis, j'ai reçu un SMS l'autre jour de quelqu'un qu'on prétendait être un eschatologue. Alors, j'ai rien contre ça, moi j'aime l'eschatologie. Hein, demandez à Florence. j'enseigne une partie de l'eschatologie dans le peu de temps qu'on a à l'université d'été. J'aime ça. Mais celui qui se prétendait être un eschatologue, je peux vous dire, les inepties, et je suis poli parce qu'on est dans un lieu saint ce matin, c'est assez impressionnant. Quoi. C'est des trucs tirés, mais c'est même pas tiré par les cheveux, c'est des élucubrations, des spéculations. Mais les gens aiment ça. Et ça circule. Et puis, vous savez par qui c'est venu ? Par quelqu'un de mon église. Elle dit, ah non, pas toi. Ah non, pas toi. S'il te plaît. S'il te plaît. Et ce matin, je reçois encore un autre truc pour dire, c'est presque pour achever ma santé. Encore un truc ce matin que je reçois de quelqu'un qui me dit, je ne cautionne pas, je ne souscris pas à ces déclarations pour telle. Alors j'explique, hein, je suis un peu dans la polémique pour faire sourire, mais j'ai des arguments pour répondre à ça. Mais on aime ça. Non, nous ne sommes pas dans la théorie du complot. Nous savons qu'il y a des pièges, qu'il y a des stratégies, qu'il y a bien sûr une volonté de l'ennemi qui agit derrière les pouvoirs, etc. Et qui agit bien plus, même plus fortement que ce qu'on peut imaginer. Mais ça n'est pas ça qui doit conditionner notre regard ni sur le monde, ni sur notre mission. Parce que ce qui vient, c'est pas le royaume des ténèbres. Ce qui vient, c'est le royaume de Dieu. C'est la bienheureuse espérance, n'est-ce pas ? Alors ça peut passer par des temps difficiles, évidemment, persécution. Tout ça, ça fait partie de la marche de l'Église, depuis toujours. Et on ne le fuit pas, on ne cherche pas à l'éluder en disant « mais non, mais non, 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 ça peut, les choses peuvent aller de plus en plus mal d'un point de vue humain à notre... » Mais ce qui est en croissance, c'est le royaume de Dieu. Le royaume des ténèbres peut grandir, mais le royaume de Dieu grandit aussi. Et dans notre culture évangélique, on a mis l'accent sur la croissance du royaume des ténèbres seulement, uniquement. Et c'est quand même le levain qui fait lever la pâte. Qu'est-ce que c'est ? Sinon, trois petites mesures qu'on met dans une pâte et qui l'imprègne, qui l'influence et qui la fait lever à lui tout seul. Cette semence qu'on met en terre et puis qui finit par devenir un arbre, sous lesquels les oiseaux viennent s'abriter, c'est bien une perspective de croissance. Et puis Dieu a toujours agi comme ça. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première. Amen. Dieu n'a pas renoncé. Dieu n'est pas en retrait en disant, allez, ce monde va se casser la figure et à la fin j'interviendrai. Il est présent aujourd'hui et il agit aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il s'est fait un peuple qui lui appartient et qui est zélé pour les bonnes œuvres, pour les œuvres bonnes. Notre vision du royaume de Dieu, c'est un monde qui est sous l'autorité du Seigneur. Il soutient le monde par sa parole toute puissante. Il n'est pas absent, il n'est pas aux abonnés absents, il n'est pas en retrait, il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre, il est à l'œuvre. L'ivraie et le bon grain grandissent ensemble. Et un jour, alors, il y aura la moisson et le tri. Mais c'est à Dieu que ça revient, n'empêche que le bon grain grandit aussi. Alors, ça, c'est un peu théorique, évidemment. Parce qu'on s'est dit, d'accord, ça nous fait du bien. Enfin, j'espère que ça nous fait du bien, ça nous encourage. J'ai dit, mais comment ça se passe ? Comment le vivre ? Comment y entrer ? Comment le rendre plus concret ? Eh bien, c'est toute notre problématique. Pas problème, mais problématique. C'est toute notre vision dans le cadre de notre famille spirituelle, réseau de nouvelles connexions. C'est qu'il y ait une compréhension du royaume de Dieu juste, équilibrée, biblique, tout simplement, voilà, qui imprègne nos mentalités, qui imprègne nos églises, qui change notre culture personnelle et notre culture d'église, et qui nous amène ainsi à être acteurs dans ce peuple et à déjà prendre notre responsabilité de gestion du monde avant le jour où, quand il reviendra, nous gérerons le monde, le royaume éternel avec lui. Et je reviens ici sur zélé pour les œuvres bonnes. Notre compréhension des œuvres dans le réseau de Nouvelle Connexion, c'est tout ce que nous sommes appelés à faire les uns et les autres, qui, à travers l'onction que Dieu nous donne, spécifique à chacun, va pouvoir incarner le royaume de Dieu. Ça peut être un témoignage, ça peut être une aide à un voisin, un rayonnement dans le quartier. Ça peut... Des fois, on me dit, ah oui, bon, d'accord, tout surtout quand on a assisté à mes enseignements sur le royaume de Dieu, on me dit, mais, ouais, mais d'accord, mais concrètement, c'est quoi le royaume de Dieu? Comment je peux y contribuer? Je dis, ben, le royaume de Dieu est en toi. C'est la présence de Christ en toi. Et c'est tout ce qui, à travers toi, va toucher, bénir ceux qui t'entourent. Parfois même par le silence. Le royaume de Dieu, ce n'est pas toujours des choses qui sont spectaculaires. Il ne vient pas toujours de manière à frapper les regards. Le problème, c'est que nous, on n'y croit pas. On croit que le royaume de Dieu, c'est juste quand il y a des signes et des prodiges. Il faut des signes et des prodiges. Mais ça n'est pas la seule manifestation du royaume de Dieu. Le royaume est en toi. Le royaume est en moi. Nous sommes des agents du royaume. Et il se met en œuvre. C'est quoi le réveil que l'on attend? Ce n'est pas des conversions en masse seulement. Bien sûr qu'on espère des conversions en masse. Mais c'est surtout une prise de conscience du peuple de Dieu que chaque membre, parce qu'il est zélé pour les œuvres bonnes, chaque membre est un agent du royaume. Là où je suis, je mets en œuvre le royaume de Dieu. Je ne le vois pas toujours, je ne le sens pas, j'en ai pas l'impression, mais c'est un fait, c'est une réalité. Et le monde des ténèbres le voit très bien, lui, par contre. Il le voit très bien. Il cherche à nous intimider de toutes sortes de façons pour que nous, on ne le voit pas. Il faut que nos yeux s'ouvrent. Il faut que nos yeux s'ouvrent. Zéler pour les œuvres bonnes, c'est tout ce qui est en toi en termes de talent, en termes d'engagement. Alors prenons, par exemple, la vie professionnelle. Betzalel était oint d'Esprit Saint, de sagesse et de connaissance ou de compétence. Pour toutes œuvres, toutes sortes d'ouvrages. Les métaux, l'or, l'argent, les pierres précieuses, le bois. Et d'où venait son talent? De l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas des talents qui viendraient de Dieu pour nous amener à guérir les malades. Et puis des talents qui viennent de notre nature, comme ça, on l'a hérité, on ne sait pas comment. Et puis ça, c'est pour travailler, pour faire du bricolage, pour être le meilleur dans notre profession, etc. Non, le Saint-Esprit est la source de toute intelligence, de toute compétence. Et vivre dans l'autorité de Christ, sous la seigneurie de Christ, c'est justement ramener toute cette dimension de notre être au bénéfice de sa grâce. Ce que j'aime dans le salut, c'est ça. Le salut, ce n'est pas recevoir Jésus dans son cœur et aller au ciel. Hein? Le salut, c'est recevoir la vie de Dieu, mais c'est notre vie qui se réaligne sur le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est depuis l'éternité. Il nous a équipés, il nous a oints. Je dis oints dans le sens de équipement, talent, compétence. Et le péché est venu voiler cela. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que, alors que nous étions appelés à glorifier Dieu à travers ce que nous sommes et ce que nous faisons, à cause du péché qui nous a amenés à nous détourner de Dieu, on a mis nos talents et nos identités au service de nous-mêmes et du péché. Et l'image de Dieu a été voilée. Mais quand le Christ vient en nous, nous devenons une nouvelle créature. Pas dans le sens que nous sommes recréés, non, que tout ce qui en nous a été marqué par le péché, défiguré, sali, souillé, corrompu, perverti, retrouve son sens. Et là, sa gloire en nous, elle grandit. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le salut, c'est ça, c'est la gloire de Dieu qui redonne de l'éclat, qui redonne du sens, qui redonne de la force à tout ce que nous sommes. Et tout en nous reprend vie, y compris nos talents. Quand tu es dans ta vie professionnelle en bénédiction de par ta compétence, de par ce que tu es, de par tes relations, tu es là un agent du royaume de Dieu. Ce n'est pas une parenthèse dans la vie spirituelle, c'est la manifestation de ta mission et de ton appel. Et c'est vrai dans toutes les sortes d'engagements associatifs, politiques, là où Dieu nous appelle à être et à vivre. Et c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Il faut qu'on ouvre tous les domaines de nos vies. Même ceux qui nous paraissent les plus éloignés, à notre sens, du royaume de Dieu, du service pour Dieu, parce qu'on est formaté, qu'on le veuille ou non. On est compartimenté, on est cloisonné. Voilà, il y a d'un côté la vie spirituelle, d'un autre côté. Alors je sais que c'est de moins en moins le cas, mais quand même, il y a encore du travail à faire. Parce que si le travail a été fait, nos villes, nos environnements professionnels, nos quartiers seraient déjà transformés. Or, ce n'est pas le cas. Et je ne dis pas ça pour être décourageant. Simplement, il y a un travail à faire. Ce travail, il est dans notre esprit. Il faut qu'on ouvre nos yeux. Il faut qu'on ouvre les domaines de notre vie. Quand on dit Jésus est Seigneur, c'est exactement ce qu'on veut dire. Tu es Seigneur de là où je suis, de ce que je fais, de mes talents, de part. Tu es Seigneur. Et donc, je t'invite. Mes yeux sont sur toi, c'est toi que je glorifie. À Dieu seul, soit la gloire. Et là, à travers ce que nous sommes, alors on peut laisser rayonner la présence de Dieu. Quelle que soit la forme que ça prend. Forme spectaculaire, parfois pas. Forme discrète, mais qui touche les cœurs, qui rentre dans les profondeurs des consciences, qui touche les domaines les plus blessés, les plus profonds des personnes. Se faire un peuple qui lui appartienne, zélé pour les œuvres bonnes, acteur du royaume. C'est ma préoccupation ce matin, qu'il n'y ait plus de zones d'ombre dans nos vies, ou de zones de non-droit, où on dit, ben non, là je fais mon boulot, là je fais ce que je fais mon devoir, là je fais... Sans comprendre que c'est là que Dieu nous appelle à manifester sa présence et à être agent de son royaume, et qu'il y a des œuvres qu'il veut libérer, il y a des talents qu'il veut libérer, il y a des talents dont il veut qu'on prenne conscience, il y a des compétences qui sont en nous et qu'on a un peu laissées de côté parce que ça fait partie de notre histoire, de notre... Mais non, c'est Dieu qui te l'a donné. Réjouis-toi, glorifie-toi en lui, donne gloire à Dieu et fais briller ce talent. Qu'il soit le talent d'écrire ou de créer, de comprendre, d'encourager, d'enseigner, de former. Et la liste est trop longue. Qui veut être de ce peuple qui lui appartient? Zélé pour les œuvres bonnes. Vous l'êtes déjà. Ma question n'a pas de sens. Vous l'êtes déjà. Mais ce qu'on a envie, les uns et les autres, c'est d'y entrer un peu plus encore. Et de se lever face à l'intimidation du diable, face au mensonge de l'ennemi. Vous savez, l'ennemi, pour moi, je trouve qu'on lui rend la tâche trop facile, quoi. Parce que nous, on se bat pour résister à la tentation, c'est très bien. On se bat pour résister au péché, c'est très bien. Continuez. Mais lui, il sait que de toute façon, on est dans sa main, dans la main de Dieu, et que nul ne nous ravira de sa main. Donc s'il peut juste nous aveugler sur la mission qui nous revient, sur le rôle que tu as dans ton entreprise, dans ta famille, dans ton quartier, dans ta ville, s'il peut juste te faire craindre que finalement, non, ça va aller de mal en pis, donc il vaut mieux vivre sa vie, s'il peut juste anesthésier cette dimension, cette conscience sociale, politique, économique, s'il peut juste dire, voilà, nous amener à nous endormir dans ce domaine-là, eh bien, il a presque gagné. Je dis, il a presque gagné parce que Dieu est au-dessus et il va nous réveiller. Mais sa stratégie, c'est de nous rendre inoffensifs. Et il nous rend inoffensifs en nous faisant ignorer la mission qui est la nôtre, en nous faisant ignorer le potentiel qui est le nôtre, en nous faisant douter de ce à quoi Dieu nous a appelés. Et nous, on veut devenir offensifs. Pas agressifs, mais offensifs. Offensifs. Et ne plus laisser de territoire dans nos pensées, dans notre façon de vivre. Ne plus laisser de territoire à l'ennemi. Parce que là où on est, comme ça, dans le retrait, dans le repli, lui, il met sa marque. Et si on croit qu'on va s'en sortir en faisant un petit peu un marché, en disant bon, j'y vais pas trop, restons tranquilles, restons pour vivre heureux, vivons cachés. Tôt ou tard, ça va se retourner contre nous. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour du réveil. C'est aujourd'hui le jour de se lever et dire voilà, Seigneur, je fais partie de ce peuple que tu purifies et que tu veux être zélé pour les œuvres bonnes. Les œuvres que tu as mises devant moi, je veux les voir, je veux y entrer, je veux les discerner. Celles que j'ai déjà mises en œuvre, alors je veux aussi m'en réjouir. Et peut-être ça commence par là. Où est-ce que Dieu a mis son sceau sur ta vie, sur tes relations, sur ton talent, sur ta vie professionnelle, sur ce que tu as fait? Où est-ce qu'il a mis la bénédiction? Où est-ce qu'il a mis le fruit qui fait que, ben oui, tout le monde reconnaît que là, tu es unique. Là, tu es vraiment tu es une source de bénédiction. Alors nous, on dit, oh, pop, pop, oui, oui, bon, on ne veut pas trop. Mais si, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Parce qu'il y a un trésor en toi. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, d'accord? On ne s'attribue pas le trésor qui est en nous, mais on s'en glorifie pour Dieu et en Christ. Et c'est donc le moment de relever la tête. Donc il y a des appels pour la vie professionnelle. Il y a des appels pour des engagements associatifs. Il y a des appels pour des initiatives, pour des projets. Je crois, là je dis les choses de manière avec les mots qu'on connaît aujourd'hui, je crois que Dieu va ouvrir un horizon insoupçonné. Il va y avoir une créativité, il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir. Il va y avoir des façons d'exprimer le royaume de Dieu, de l'incarner, qu'on n'a même pas imaginé. Il va y avoir des façons de servir, des façons de témoigner, d'être présent au monde qu'on n'a pas imaginé, mais que Dieu va nous donner. Vous croyez ça? Ambassadeur, ambassadeur, ambassadeur. Avec le mandat qui nous est donné, on y va, on est présent. On représente le royaume de Dieu et on parle en son nom, on agit en son nom. Et dans le but de le voir se répandre pour le salut de notre génération. Alléluia. Dieu est bon. Hein, c'est fait du bien de faire partie de l'Église. Hein. Et dimanche prochain, quand vous irez voter, ne soyez pas découragés par le fait de dire « Bon, c'est pas trop. Oh là là, hein. » Non, non, faites ce que vous voulez devant Dieu. Faites tout de manière juste, mais soyez dans la foi que quoi qu'il en soit, le royaume de Dieu va avancer dans notre nation. Hein. Relisez la déclaration de RNC sur cette, c'est pas de la pub, hein, c'est juste, on prolonge l'enseignement, sur l'état d'esprit dans lequel nous devons vivre cette situation aujourd'hui politique. Dans la foi qu'il est notre berger, qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et dans la concrétisation de cette foi, dans des attitudes de paix, de confiance, d'autorité. Et que rien ne nous prive de sa joie. Alléluia. On va juste adorer Dieu ensemble. Et le laisser agir pendant quelques instants parmi nous. Ça a été dit ce matin. Hein. Dieu se réjouit. Dieu prend plaisir. Parce que Dieu sait et Dieu voit tout ce que tu es, tout ce qui est en toi, tout ce qu'il a mis en toi. Alors, plaçons-nous sous ce regard bienveillant du Père. C'est bon d'être dans sa présence. Dieu voit. Dieu te voit. Alors, n'aie pas peur de ce regard. Hein. Toi, tu vois ce qui ne va pas, ce qui pourrait être mieux, ce qui est parfois les erreurs, même parfois le péché, mais on est là dans la vérité, dans la repentance, s'il le faut, dans l'ouverture devant Dieu. Mais surtout pas dans le retrait ou dans la méfiance. On s'approche du Père bienveillant, qui nous accepte et dont la grâce est en train d'agir en nous pour redonner vie, pour fortifier, pour transformer. Alléluia. En étant dans ces deux jours au milieu de vous, je crois que Dieu nous a permis de voir, c'est pas la première fois, mais de voir encore une fois le potentiel qui était en vous en tant qu'Église. Et on veut le souligner, on veut le bénir, on veut le dire. Il y a ici un potentiel de Dieu pour bouleverser cette ville et cette région. Avec les autres croyants, bien sûr, on n'est jamais les seuls, mais on est parmi ceux que Dieu fait se lever, ce peuple. Amen. Amen. Certains pensent à leur lieu de travail, qui peut être un lieu difficile, un lieu aride, un lieu parfois de conflit, un lieu inquiétant, menaçant, un lieu dans lequel tu te sens pas en sécurité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de raison à cela. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de combat. Mais je veux simplement dire de la part de Dieu que tu as l'autorité, tu as le potentiel pour renverser le mouvement et pour aller dans ce lieu-là, aussi hostile qu'il soit, avec confiance et avec la mission d'y rechercher la paix et d'y amener la présence de Dieu. Peut-être que ce matin, pour toi, la démarche, ce zèle pour les œuvres bonnes, c'est de reconquérir ce lieu de travail et de le voir comme le lieu où Dieu t'a placé, le lieu qu'il te donne, le lieu qu'il te confie. Que tu ne t'y sentes plus étranger, mais que tu y sois là comme envoyé de Dieu. C'est le lieu que Dieu a choisi pour que tu y fasses rayonner sa présence et son royaume. D'autres prennent conscience de talents qui leur sont donnés, artistiques, de toutes sortes de nature. Ces talents-là, on lui rend gloire. On les lui offre. Et on dit, Seigneur, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Et en faisant cela, il y a deux, il va ouvrir des portes. Je l'ai dit il y a quelques instants, je le redis maintenant, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Des opportunités nouvelles qui vont être données. Il y a une créativité pour bénir, pour servir, pour renouveler ce zèle dans les œuvres bonnes. Il y a des choses qui doivent tomber, des choses qui doivent s'arrêter parce que voilà, c'est une autre saison, mais d'autres choses que Dieu va donner. Notre approche, notre façon d'aborder les personnes, les situations. Quand tu vas entrer dans cette nouvelle voie, tu vas avoir le sentiment de marcher sur l'eau. Parce que c'est de l'inconnu, c'est quelque chose qui n'est pas habituel, qui n'est pas sécurisant. Et pourtant, c'est le chemin que Dieu ouvre. Alléluia. Et je veux faire monter cette révélation de ce que Dieu veut faire de nouveau. Ensemble, en tant qu'Église, mais pour chacun aussi, dans la part qui lui revient. Je confesse que ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce que l'œil n'a jamais vu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, à nous, le Saint-Esprit, nous le révèle. Alléluia. Je veux ouvrir des nouveaux chemins de révélation dans ta vie, dans ton lieu, dans ton environnement. Que tout ce qui est devenu usé, routinier, languissant, pénible, difficile, soit renouvelé par une vision de ce que Dieu va faire, de ce que Dieu peut faire, par une nouvelle façon d'aborder et de vivre ta position dans ces lieux. Alléluia. Que les lieux qui sont marqués par l'usure, par la lassitude, par la routine, par la pénibilité, tout cela, nous les amenions au Seigneur ce matin. Et que dans ces lieux, alors il vienne éclairer, mettre son sceau, mettre sa gloire et nous faire voir les choses de manière nouvelle. Et nous faire faire des choses nouvelles. Amen. Alléluia. Ça peut être à l'école, ça peut être à l'usine, ça peut être au bureau, ça peut être, je ne sais, à la maison, dans l'association, où que ce soit. Ne laissons pas la tradition, la routine prendre le dessus et régner. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. La lumière se lève, il y a des lumières qui se lèvent là, il y a des choses qui s'ouvrent. Si ce n'est pas maintenant, ce sera dans les heures qui viennent, ce sera demain, en étant confronté aux situations. Dieu ouvre des chemins nouveaux. Amen. Alléluia. Alléluia. Laisse entrer la lumière de Dieu. Laisse entrer la présence de Dieu. Là où il veut l'amener. Laisse-la rayonner, laisse-la se répandre. Un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Amen. Est-ce qu'on peut commencer à prier peut-être là? Si certains ont vu des choses s'ouvrir, une compréhension, une opportunité, une façon de faire qui vous est, qui descend, qui est en train de, qui est en train de se profiler à l'horizon, qui est en train d'émerger dans votre esprit comme ça. Alors rendez grâce à Dieu. Prenez position. Vous pouvez vous lever si vous le souhaitez et puis dire, Seigneur, avec ta force, j'irai là où tu m'envoies. Oui, je vais accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Oui, je vais prendre possession de ce territoire pour ton royaume. Oui, je vais être zélé à nouveau pour les œuvres bonnes que tu as préparées pour moi. Amen. On va entrer dans un temps de conquête pendant quelques instants. Donc, même si c'est pas encore très précis, même si c'est pas encore, non, mais c'est pas, on marche par la foi et non par la vue. Abraham est parti, ne sachant pas où il allait, mais il a entendu la voix de Dieu, il a dit oui, je te suivrai. Il a tout quitté et il a marché dans cette voie-là. Alléluia. Et pendant que vous êtes là devant Dieu et que vous vous levez, pour ceux qui veulent se lever, alors là, recevez la force, recevez l'onction, recevez l'autorité, recevez la joie du royaume de Dieu qui vient à travers vous, pour bénir, pour guérir, pour consoler, pour aimer, pour pardonner, pour libérer. Alléluia. Alléluia. Dans un monde de désespérance, un monde de souffrance, de solitude, c'est nous que tu envoies pour amener l'espoir, pour amener l'espérance, pour amener la consolation et la libération partout où le diable sème la désolation et la destruction. Alléluia. J'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour tous ceux qui sont autour de moi et qui s'attachent au Seigneur. Alléluia. Je vous laisse prier, confesser, louer, prendre position. Appropriez-vous. Faites vos délices de ce que Dieu est en train de faire déjà. Faites-en votre nourriture. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Savourez ce que Dieu prépare pour vous. Alléluia. 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 Saluez ce qui est nouveau. Dieu est le Dieu qui fait toujours toutes choses nouvelles. Alléluia. Gloire, 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 gloire.